Alors, on va commencer notre 69e leçon. Aujourd'hui, c'est le postmodernisme qui est véritablement une attaque sur le christianisme biblique. Alors, la présente leçon est basée sur la brochure au format PDF. Elle est en anglais, elle a 28 pages et elle a été écrite par le pasteur réformé baptiste Errol Hulse et elle s'intitule « Postmodernism ». Elle est disponible gratuitement pour téléchargement sur le site www.mountzion.org. Alors, bien entendu, traduire 28 pages comme ça en petits caractères, j'ai pas voulu le faire parce que c'est très, très long. Mais ce que j'ai voulu, c'est de prendre le matériel qui est à l'intérieur, les idées qui sont à l'intérieur, et d'en faire une utilisation libre, mais cependant en respectant les idées du texte original. Alors, c'était un peu ça qui est la leçon de ce soir. Alors, il commence en nous faisant la remarque suivante, c'est qu'il dit qu'actuellement, dans la société, il se produit un énorme changement. En anglais, il appelle ça « a mega shift ». Alors, c'est en train de s'opérer dans notre manière de penser de la société occidentale. Alors, les nouveaux arrivants qui arrivent aussi en Occident en général, dans notre société, observent souvent que la masse des gens vivent dans l'immoralité et l'hédonisme, qui est un autre mot pour dire que les gens ne pensent qu'à vivre pour leur plaisir. Alors, comme philosophie, le postmodernisme apparaît absolument partout. Nos nouveaux professeurs, les journalistes, les juristes, les juges, les leaders politiques ont tous été solidement endoctrinés. Alors, le postmodernisme règne dans la politique, les universités et les institutions d'enseignement et s'établit comme nouvelle façon de penser de la société occidentale. Alors, le christianisme évangélique est de plus en plus rejeté et considéré comme dépassé et inadéquat pour l'ensemble de la société. Alors, on a besoin d'aide si nous voulons comprendre ce qu'est le postmodernisme. Nous devons préparer nos enfants intellectuellement et les équiper à résister à l'immoralité ambiante, en particulier, qui est une partie intégrante du postmodernisme. Comme nous pourrons le constater, cette philosophie est extrêmement destructrice, et ceci particulièrement envers les valeurs familiales. Alors, les leaders chrétiens sont sous pression constante pour maintenir la vérité biblique dans toutes les sphères de la vie. Alors, le pasteur et docteur Martin Lloyd-Jones avait raison de rejeter les prétentions de l'époque de l'après-Deuxième Guerre mondiale, qui affirmait que l'humanité s'était améliorée dans sa nature essentielle. L'humanité est aussi perdue aujourd'hui qu'elle l'était lors de la chute d'Adam et Ève. Lorsque le Seigneur est venu les visiter, leur réflexe d'alors fut de se cacher. Ce réflexe demeure encore aujourd'hui. D'énormes changements culturels ont eu lieu qui se reflètent dans les nouveaux schémas de pensée. Satan est à l'œuvre en persécutant les faux systèmes, en encourageant, c'est-à-dire les faux systèmes de pensée, et aussi en les utilisant pour la séduction, la tromperie et la destruction des âmes. Cependant, les valeurs absolues de la Bible demeure immuable et inchangé. L'Évangile est inchangé. Le Seigneur lui-même est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment pouvons-nous véhiculer correctement cette vérité auprès des autres pécheurs et apporter l'éclatante lumière de la parole de Dieu à ceux qui, comme Adam et Ève, cherchent encore à se cacher, à éviter de voir leur véritable état spirituel devant Dieu et à ignorer le jugement divin à venir et leur destinée éternelle. Alors, le premier point qu'on va regarder, c'est le postmodernisme défini. Alors, l'absolue souveraineté de Dieu est un fondement du christianisme. Le Tout-Puissant ordonne et a décidé de toute chose qui arrive sans qu'il soit l'auteur du péché. Toutes choses s'accomplissent avec un dessein divin et sont ultimement pour la gloire de Dieu. Cette réalité biblique a souvent été appelé un méta-récit. En anglais, on appelle ça a meta-narrative. Alors, un méta-récit, c'est une explication de toute l'histoire et de tout l'univers. Un méta-récit donne du sens et a un but de façon globale. En anglais, j'ai trouvé difficile à traduire l'idée de overarching purpose. Alors, c'est comme un méta-récit, c'est quelque chose qui explique, qui donne un sens à tout ce qui est créé, à toute l'histoire, depuis le début jusqu'à la fin. Alors, un méta-récit, c'est vraiment énorme. Il faut comprendre ça. Alors, nous, la Bible, le méta-récit qu'on connaît, c'est l'absolue souveraineté de Dieu dans tous les domaines. Alors, nous avons grandement intérêt à réviser, à étudier et à bien intégrer notre confession de foi à cet effet. La confession de foi baptiste de Londres de 1689 est très explicite quant à cette idée du décret divin. Nous reproduirons ci-dessous le chapitre 3 pour nous remettre toutes ces notions en mémoire. Quand on dit que c'est biblique, bien entendu, j'aurais pu juste dire ça, mais j'ai calculé que, dans le fond, reviser ce que la Bible dit sur le sujet, écrit par un grand nombre de pasteurs qui étaient réunis et qui ont vraiment figé dans une confession de foi qu'est-ce qu'ils entendaient par cela de façon claire, avec plein de versets, c'est utile pour nous. Pourquoi je dis que c'est nécessaire de la réviser? Parce que même si on l'a dans les mains, si on ferait le tour de tout l'ensemble de tous les chrétiens qui vivent dans des églises réformées baptistes, est-ce que si je les questionnais sur ça, est-ce qu'il y aurait tant de monde que ça qui comprendrait vraiment le sens de tout ça? Mais c'est important de le comprendre parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on garde notre méta-récit et qui est basé sur les Saintes Écritures. Alors, le premier paragraphe du chapitre 3 de notre confession de foi dit « De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive, de telle manière cependant qu'il n'est pas l'auteur du péché, non plus qu'il n'a de communion avec quiconque à cet effet, sans faire violence à la volonté de sa créature, et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. Ce décret manifeste la sagesse de Dieu qui librement dispose de tout ce qui existe, de toute puissance et de fidélité pour l'accomplir. » Alors, vous avez les petits numéros à côté de chacune des phrases avec les versets. Alors, c'est intéressant d'aller reviser ces choses-là une fois de temps en temps. Et je peux vous dire une chose. Par exemple, si on prend la phrase « sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies », si je demandais à 50 personnes qui sont dans des églises réformées baptistes, « explique-moi qu'est-ce que ça veut dire ». Pas sûr qu'il y aurait beaucoup de monde qui soit capable de répondre intelligemment. Alors, on a une confession de foi, mais approuver son contenu, comprendre son contenu, puis être capable de le défendre, ça, c'est une autre affaire. Alors, le deuxième paragraphe du chapitre 3 se lit comme suit. « Bien que Dieu sache tout ce qui peut ou doit arriver, quelles que soient les circonstances, il n'a cependant pas décrété telle chose parce qu'il l'a prévue comme future, ni parce qu'elle devait arriver en raison de conditions préalables. » Troisième paragraphe. « Par le décret de Dieu, pour la manifestation de sa gloire, certains parmi les hommes et les anges sont prédestinés ou préordonné à la vie éternelle par Jésus-Christ, à la louange de sa glorieuse grâce. D'autres sont laissés pour agir selon leur péché qui mène à leur juste condamnation, à la louange de sa glorieuse justice. » Et encore là, on peut lire ça, mais c'est intéressant toujours de prendre les petits numéros et d'aller lire les paragraphes dans les Écritures elles-mêmes. Quatrième paragraphe, « Ces anges et ces hommes, étant ainsi prédestinés ou préordonnés, sont spécifiquement et immuablement désignés. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le nombre, les noms des personnes qui étaient pour être sauvées ont été établis par Dieu lui-même. Et si on comprend cela, alors leur nombre est si certain et défini qu'il ne peut être ni augmenté ni diminué. Cinquième paragraphe. ceux des êtres humains que Dieu a prédestinés à la vie. Il les a choisis en Christ pour la gloire éternelle, avant la fondation du monde, selon son dessein éternel et immuable, et le conseil secret et le bon plaisir de sa volonté. Il les a choisis par sa seule grâce et son amour, sans qu'il n'y ait rien dans la créature comme condition ou cause qui le conduira ainsi à ainsi faire. Sixième paragraphe, tout comme Dieu a ordonné les élus à la gloire, il a aussi, par le dessein éternel et très libre de sa volonté, préordonné tous les moyens qui sont nécessaires. C'est ainsi que ceux qui sont élus, étant tombés en Adam, sont rachetés par le Christ. Ils sont appelés efficacement à la foi en Christ par son Esprit qui agit au temps convenable. Ils sont justifiés, adoptés, sanctifiés et gardés en sa puissance par la foi en vue du salut. Il n'y a pas d'autre que les élus qui soient rachetés par Christ, efficacement appelés, justifiés, adoptés, sanctifiés, sauvés. La doctrine de ce profond mystère, septième paragraphe, de la prédestination doit être traitée avec une sagesse et un soin particulier, afin que ceux qui cherchent la volonté de Dieu révélée dans sa parole et qui lui obéissent puissent, dans la certitude de leur appel efficace, être assurés de leur élection éternelle. Cette doctrine donnera donc à tous ceux qui obéissent sincèrement à l'Évangile matière à louange, respect et admiration pour Dieu, humilité, zèle et immense réconfort. Alors vraiment, c'est juste le troisième chapitre de notre confession de foi et je pense qu'on pourrait passer un mois ou deux à étudier tout ça. Là, on aurait beaucoup à... Alors l'importance de bien réviser notre confession de foi, la comprendre, l'étudier, ça va faire en sorte que notre métarécie qu'on vient de parler va être fort et basé sur les Saintes Écritures. Alors, le sous-point qu'on va regarder, le postmoderniste nie avec vigueur l'existence d'un métarécie. Alors, ça, c'est la première caractéristique du postmoderniste. Lui, il dit que cette idée-là d'avoir une idée unifiante qui explique tout depuis le début jusqu'à la fin, il dit que c'est impossible. Il le nie catégoriquement. Alors, en affirmant vigoureusement l'existence d'un métarécie, donc c'est une philosophie qui donne un sens global à tout, les postmodernistes affirment qu'il appartient à chacun, à chaque personne individuelle, de construire son propre métarécie qui dépend de sa propre communauté de pensée. Voyez-vous ce que ça implique? Autrement dit, pensez ce que vous voulez dans votre petit coin chacun, et il dit que c'est à chacun de construire son métarécie. Alors, à ce moment-là, ce n'est plus un métarécie qui vient des Écritures, qui vient d'une explication des choses par le Seigneur, mais c'est une explication subjective. Alors, chacun a sa petite philosophie de la vie. Alors, c'est beaucoup plus grave que ça n'a l'air à première vue. Alors, la plupart des gens ont été habitués à penser en termes des deux principaux métarécies. Alors, ceux qui ont notre âge, il y a deux principaux métarécies qui existent depuis des années. Et c'est le christianisme biblique, et qui consiste en une révélation de Dieu dans les Saintes Écritures. Et l'autre métarécie, c'est celui de l'humanisme. L'humanisme qui consiste à avoir une confiance rationnelle dans la science, dans l'évolution et dans le progrès. Quand vous regardez le 20e siècle, tu avais les chrétiens d'un côté et tu avais les humanistes de l'autre bord qui, eux autres, cherchent à tout comprendre en termes de science, en termes de progrès, en termes de tout cela. Alors, c'était les deux grands métarécies qui existaient, qui ont existé dans l'époque moderne. Mais là, on n'est pas en train d'étudier l'époque moderne, on est en train d'étudier l'époque post-moderne. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça?
Après.
Oui, post qui veut dire après. Alors, on est rendu à la page 5. Alors, pour bien comprendre d'où ça vient, toutes ces choses-là, on va voir que ça vient de philosophes français. Alors, on va regarder les principaux noms, ça ne veut pas dire que c'est les seuls, mais Jean-François Lyotard, ça n'est très certainement un très important qui a développé toute cette philosophie-là. Alors, la pensée dominante de ce philosophe peut s'exprimer ainsi. Le postmodernisme est défini comme une incrédulité absolue envers les métarécies. Son livre, qui s'appelle « La condition postmoderne, rapport sur le savoir », qui a paru en 1979, a été largement diffusée dans les milieux intellectuels. Par cette affirmation, il fait référence au métarécit de la science qui est devenu tellement spécialisé et fragmenté qu'il n'est maintenant plus possible de parler d'une voix qui unifie. Voyez-vous, il y avait la science, l'humanisme, et là, lui, il dépasse ça, il dit, même ce métarécit-là de l'humanisme est dépassé et rejeté à cause de, de ce qu'il dit. La science est rendue tellement spécialisée et fragmentée que ça ne peut plus donner un sens global à l'ensemble de l'histoire. Alors, il développe l'idée que le triomphe du capitalisme, avec son emphase sur l'efficacité, la gestion ou le management, est devenu plus important que la vérité. Il donne aussi l'exemple de l'écroulement du système social, économique et politique du communisme et croit que le phénomène renforce l'idée que l'époque des métarécits est dépassée et terminée. Autrement dit, il étudie le communisme. Il dit, voyez-vous, c'est un système moderniste qui croyait en l'homme, qui voulait établir, autrement dit, le paradis terrestre avec ses valeurs, avec sa façon de fonctionner. Il dit, même ça, c'est fini. Alors, ce qu'il veut faire passer dans la tête des gens, c'est que l'époque des métarécits est terminée. On ne peut plus se fier sur aucun métarécit que ce soit. Alors, depuis longtemps, le métarécit chrétien avait été ignoré. Cependant, le métarécit de l'humanisme n'a été remis en question radicalement que depuis très peu d'années par les postmodernistes. Les facteurs qui ont amené à cette grande désillusion ont été l'Holocauste juif de la Deuxième Guerre mondiale, la révélation des horreurs du régime soviétique et staliniste de l'URSS avec l'archipel du Goulag. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là, l'archipel du Goulag. On prenait tous les opposants politiques, on les envoyait en Ukraine ou dans le Nord et ils travaillaient, travaux forcés. Alors, Solzhenitsyn, je ne sais pas si vous venez là-dessus, il dénonçait toutes ces choses-là et ça a provoqué une crise dans l'URSS au point où qu'éventuellement le système s'est écroulé. Alors, il y avait l'archipel du Goulag, il y avait les génocides qui ont eu lieu en Afrique, au Cambodge, les Khmers rouges, qui n'a pas entendu parler de ça? Après ça, il y avait la Yougoslavie, il y a eu les crises écologiques, le réchauffement du climat, l'épidémie du sida et les innombrables abus des pouvoirs politiques et militaires, etc. Il développe, autrement dit, l'idée qu'il n'y a plus rien à faire avec ça, c'est à chacun de construire son petit système. Alors, les postmodernistes affirme catégoriquement qu'il n'est plus possible de prêter foi à quelque système de croyance que ce soit. Ils affirment que tout système de croyance est aussi valide que le précédent ou que le suivant. Autrement dit, fais ton choix, prends celui que tu fais ton affaire, c'est à peu près ça l'idée. Cette attitude a encouragé le relativisme et a nourri une aversion fixe à toute prétention à la vérité absolue. Alors, pour les postmodernistes, prétendre expliquer le monde depuis le début jusqu'à la fin, c'est de la folie furieuse. Alors, je dis bien pour eux. Alors, une façon simple d'exprimer l'essence du postmodernisme, si on l'avait à le résumer en une phrase, c'est que pour eux, il n'y a pas d'absolu fixe. Alors, le moderniste versus le postmoderniste. Alors, on peut se dire la question suivante. Si on dit qu'on est dans le postmodernisme, le moderniste a commencé à quelle date, puis le moderniste a fini à quelle date? Alors, c'est à peu près ça qu'on va essayer d'établir. Alors, l'érudit chrétien qui s'appelle Thomas Oden affirme que le modernisme a duré 200 ans. Bien sûr, quand on avance des chiffres comme ça, on ne peut pas dire ça a commencé telle date vraiment, là, au jour près, puis ça a fait. C'est qu'une période. Alors, la période. Alors, il dit, selon lui, ça a commencé avec la prise de la Bastille durant la Révolution française en 1789. Autrement dit, avant, tu avais le roi, le système féodal, tu avais le Moyen-Âge, tu avais le système royal de la royauté. Et la prise de la Bastille, ça a été la tentative par la Révolution française et par Napoléon de vouloir établir la société sur des nouvelles bases. Alors, la prise de la Bastille durant la Révolution française, ça s'est fait en 1789. Alors, on a commencé à calculer que le modernisme a commencé en 1789. Et il est allé jusqu'à l'écroulement du mur de Berlin en 1989, qui représentait quoi? Qui représentait le communisme qui s'écroulait littéralement. On sait qu'après 89, l'URSS est toute brisée, formée dans différents pays. C'était plus le gros bloc qu'il y avait avant. Alors, selon lui, la période du modernisme, c'est 200 ans. Début 1789, la Révolution française qui mettait fin au système féodal et monarchique. Et la fin, c'est vraiment 1989 avec l'écroulement du mur de Berlin qui, lui, mettait fin au système du communisme. Alors, on voit que les dates du début et de la fin correspondaient avec l'écroulement de deux grands systèmes, deux grands métarécies. Alors, avant la Révolution française, la monarchie emprisonnait ses opposants politiques et a conduit à l'exaltation du système philosophique des fameux droits de l'homme. Durant la période de la Révolution française, la déesse de la raison fut installée dans la cathédrale de Notre-Dame. Très symbolique, hein? On a pris la déesse de la raison, qui était comme un genre de statue, on est allé la mettre dans le symbole même du christianisme. Bien, christianisme catholique, mais il reste quand même, il y avait un symbole très fort là-dedans. Alors, ils ont mis la déesse de la raison dans la cathédrale de Notre-Dame. Alors, le christianisme, en 1789, dans la société française, était considéré comme une chose du passé et complètement dépassé. La raison humaine prendrait dorénavant la place de Dieu. Plus tard, l'humanité éleva cette idée à une échelle massive et planétaire, du moins en tentative, avec le développement du communisme et du stalinisme. Alors, quand la Révolution française a manqué son coup, on a, après ça, l'idée du communisme est arrivée et on a essayé d'établir ça vraiment sur toute la planète. Et en 1989, on sait que ça a été vraiment le début de la fin. Tout ça s'est vraiment écroulé. Alors, l'enchantement du modernisme a été caractérisé par les choses suivantes. Ce qu'on pourrait appeler le messianisme technologique. Autrement dit, les gens mettaient la foi de régler tous leurs problèmes avec la technologie et la science. L'idéalisme, et là on s'est mis à avoir vraiment de l'idéalisme. Le pragmatisme, autrement dit, on accepte une chose uniquement si elle fonctionne, si elle peut nous apporter un certain... Et l'idée que la société est en constant progrès. Alors c'est vraiment l'idée de ces 200 ans-là, on peut les résumer avec ces quelques phrases-là. Messianisme technologique, idéalisme, pragmatisme et l'idée de la société en constant progrès. Ce que j'ai aimé de du pasteur Errol Hulse, c'est qu'après ça, il prend le grand phénomène, puis il le ramène à quatre idées fondamentales. Et il développe chacune des idées. Et là, je trouve que c'est là très intéressant parce qu'on comprend, parfois, on a eu des sermons, on a eu un l'année passée ici, on a eu un à Actonville récemment, et les thèmes, c'est toujours le christianisme ou la prédication ou l'évangélisation dans une société postmoderne. Je serais curieux d'aller dans les églises puis dire aux gens, qu'est-ce que c'est le postmodernisme? Il faut comprendre qu'est-ce que c'est si on ne comprend pas qu'est-ce que c'est juste des mots dans l'air et on ne comprend pas exactement. Alors, le but de la leçon, c'est justement d'essayer de nous faire comprendre les principaux éléments du postmodernisme. Alors, ça comprend, en général, lui dit qu'il y a bien des façons de le définir, mais que ça comprend, en général, quatre aspects. Et les quatre aspects sont là. Alors, les définitions varient, mais les quatre aspects sont généralement présents. Alors, les quatre volets, je les ai mis en bas dans un petit tableau. Le premier volet, c'est la déconstruction. Le deuxième volet, c'est le relativisme moral. Le troisième volet, c'est le pluralisme. Et le quatrième volet, l'existentialisme. Alors, on va voir comment toutes ces choses-là s'articulent. Alors, on va examiner chacun des volets dans ses caractéristiques propres. Alors, ce soir, je pense qu'on va avoir le temps de faire uniquement juste celle de la déconstruction. Alors, il faut savoir d'où ça vient, toutes ces histoires-là. Alors, on a ici, je vous ai mis des photos, des bonhommes qui ont été des promoteurs de toutes ces idées-là qu'on va regarder. Qu'est-ce que c'est la déconstruction? Alors, les écrits de Roland Barthes qui a vécu de 1915 à 1980, Michel Foucault lui a vécu de 1926 à 1984, Jacques Derrida est venu au monde en 1930, il semble qu'il ne serait pas encore décédé, ont connu beaucoup de succès. Alors, les œuvres de ces bonhommes-là ont été répandues vraiment énormément et ont eu beaucoup de succès, et ça a énormément influencé les développements du postmodernisme. Alors, vous avez les photos là, de ce qu'on pourrait appeler les trois grands bâtisseurs du postmodernisme. Alors, si on avait à prendre l'ensemble de ce que ces gars-là ont écrit, et on dirait quelle est l'idée fondamentale qui unit leurs idées, alors ce serait l'idée suivante. Le langage humain, écrit ou parlé, ne réfère pas à un monde objectif parce que les auteurs ne sont plus là et que l'on peut donner à leurs affirmations la signification que l'on veut. Je ne sais pas si vous voyez l'impact que, quand tu regardes l'Évangile avec ces yeux-là, qui est en train de dire que le langage, qu'il soit écrit ou qu'il soit parlé, ça ne se réfère pas à un monde objectif. Autrement dit, il y a des gens qui ont écrit ça, mais moi, en le regardant ou en l'étudiant, je peux donner le sens que je veux à ce qu'ils ont écrit, parce que les auteurs qui ont écrit ça, qui étaient à cette époque-là, sont plus là pour défendre qu'est-ce qu'ils voulaient vraiment dire. Alors, c'est ça l'idée fondamentale, c'est qu'il n'existe pas de réalité objective. Tout ce qui est écrit ou tout ce qui est parlé, et là on peint large, on peint tout ce qui existe, on est en train de dire, les auteurs ne sont plus là. Donc, ce qu'ils ont écrit, on peut leur donner le sens qu'on veut parce que les auteurs ne sont plus là et qu'on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et il y a un peu de vérité dans ce qui est dit là. Alors, oui, il y en a. Faut pas, ils développent, pas pour rien, ça a tamponné ce qu'ils ont dit là. En tout cas, on va voir tantôt un exemple comment ils font une déconstruction. Alors, quand tu dis que ça n'existe pas, on va voir que ça existe. Ils affirment que si vous lisez les Évangiles, vous pouvez considérer que les auteurs avaient l'intention de décrire des événements qui sont réellement arrivés en Israël durant le premier siècle. Nous lisons dans ces récits que le Fils du Dieu vivant a été arrêté, est mort par crucifixion, est ressuscité des morts et est monté au ciel. Alors, ces critiques littéraires regardent ces récits comme étant insoutenables parce que les auteurs ne sont plus avec nous et que nous pouvons interpréter ou leur faire dire à leurs écrits ce que nous voulons. L'idée des défenseurs du postmodernisme est qu'il n'y a pas de réalité objective au-delà de notre propre interprétation. Alors, ça, c'est une idée extrêmement dangereuse. Ils affirment que les mots ne réfèrent qu'à d'autres mots et que la signification est par le fait même reportée indéfiniment. Alors, selon Barthes, parler d'un monde objectif est plutôt une tentative de la bourgeoisie de maintenir son pouvoir par la manipulation des masses. Pour Derrida, un texte n'a pas de référence en dehors de lui-même. Alors, le déconstructionnisme argumente avec force que nous ne pouvons pas échapper au cercle herméneutique, c'est-à-dire qu'en interprétant ce qui est écrit, nous pouvons donner au texte le sens que nous voulons. Selon eux, la signification du texte se pervertit elle-même et le langage ne peut en aucun cas se référer à une réalité objective. Une autre façon d'exprimer cette vue est que tout écrit va véhiculer des significations que l'auteur original n'avait pas l'intention d'exprimer et que même l'auteur ne peut exprimer adéquatement avec des mots ce qu'il désirait exprimer à l'origine de l'écrit. Alors, on va donner un exemple très concret. On va voir qu'est-ce qu'ils font. Alors, donnons ici un exemple de déconstruction qu'ils font dans leur volume. La Déclaration américaine de l'indépendance, un document fondamental pour les États-Unis. Alors, celle-ci affirme dans les mots suivants. « Nous tenons pour évidentes pour elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par leur Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Ça, c'est l'introduction de la Déclaration de l'indépendance des États-Unis. Voici ce qu'ils en font. Alors, ceci peut être déconstruit, selon eux, de la manière suivante. Même si le texte parle d'égalité, son langage exclut les femmes, parce que ça dit « de tous les hommes sont créés égaux ». C'est vraiment du jouer avec les mots. Hein. Après ça, la deuxième, ils déconstruisent encore le texte de la manière suivante. Il dit, même si le texte parle de liberté, son auteur, Thomas Jefferson, possédait des esclaves. Alors voyez-vous, il prend le système et il dit, regarde, c'est illogique. Il parle de liberté et il y avait des esclaves. Alors ils prennent tout le texte et ils déconstruisent de cette façon-là. Et non seulement ils font ça avec la Déclaration de l'indépendance, mais ils font ça avec toute l'histoire. Alors quelque part, tu es en train de détruire toute référence et tu es en train de dire qu'il n'y a pas de réalité objective. Il n'y a que celle que tu te donnes toi-même. Et il n'y a que celle que tu donnes au texte selon ta propre interprétation. Alors, ils disent, ou si on continue avec la Déclaration d'indépendance, ils disent la signification superficielle d'égalité et de liberté est complètement contredite par la réalité. Ce que eux appellent dans leur système de subtexte. Autrement dit, c'est pas écrit dans le texte, mais c'est comme sous-entendu dans le texte, qui nie l'égalité et la liberté aux femmes et aux minorités. Alors, ils continuent. Il dit « Cette déclaration sauvegarde les droits des mâles blancs et riches qui ont signé le document, enracinant leur statut privilégié en Dieu lui-même. » Voyez-vous, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que, dans le fond, c'était les blancs qui allaient chercher leur autorité en Dieu pour protéger leur propre privilège. Et que, dans le fond, tout ce qu'ils disaient par rapport à la liberté, c'était toutes des contradictions. Et après ça, il disait, la Déclaration de l'indépendance peut être ainsi déconstruite pour n'être qu'un autre jeu de pouvoir impliquant l'opposé de sa signification en surface. Imaginez quand vous prenez des documents fondamentaux, puis que vous faites ça avec l'ensemble du document jusqu'où vous allez. Vous détruisez les documents fondateurs d'une société, et ça, c'est extrêmement grave. Alors, ce genre de raisonnement est pour le moins très déconcertant. S'il est vrai que nous sommes privés de toute forme de communication véhiculant un sens sur la base que les mots ne peuvent véhiculer une vérité objective, que ferons-nous donc alors? Notre foi est bâtie sur le métarécit de la parole de Dieu, de la création à la chute, l'appel d'Abraham, la formation de la nation d'Israël, le roi David, les prophètes et leurs promesses écrites, la venue de Jésus et l'accomplissement de la prophétie. L'auteur chrétien Douglas Grotius répond à cette affirmation du postmodernisme. Il dit « Lorsque les postmodernistes cherchent à éliminer les métarécits, déconstruire la vérité en des jeux de langage et rendre la spiritualité comme étant un mélange d'éléments subjectifs et irrésistibles, les chrétiens évangéliques doivent ramener la vérité objective sur la table comme étant le souci et la préoccupation centrale. En anglais, as the centerpiece of concern. Alors, si la force du postmodernisme, c'est le subjectivisme, alors l'auteur chrétien dit, nous, on se doit de ramener l'objectivisme des Écritures et leur mettre devant les yeux. Qu'ils l'apprennent, qu'ils ne l'apprennent pas, ça, c'est notre travail à nous. Alors, Grotius loue l'auteur chrétien Carl F. H. Henry pour son ouvrage monumental en 6 tomes qui s'appelle « God, Revelation and Authority » qui a été écrit entre 1976 et 1983 qui soutient l'absolue nature de la révélation propositionnelle. Grotius démontre ensuite comment certains leaders évangéliques s'écartent de ce postulat basique. Alors, si les chrétiens, avec toute cette inondation d'idées subjectives qui cherchent à nous rentrer dans le cerveau, si nous, on ne répond pas en se basant sur les saintes Écritures et en ramenant les absolus, c'est sûr que... Et ils déplorent. Alors, moi, c'est pas un milieu que je suis beaucoup, les États-Unis, mais l'auteur Carl Henry dit qu'il y a beaucoup de leaders évangéliques qui ont déjà abandonné l'idée de promouvoir les absolus alors qu'on est attaqué uniquement par des idées subjectives. Alors, nous ne devons pas nous laisser intimider par la résistance à la vérité propositionnelle et à la déclaration de la prédication de réalité objective. L'apôtre Paul a rencontré une opposition similaire lors de sa visite à Athènes. Nous devons suivre l'exemple de Paul. Il commença par pointer aux Athéniens qu'ils étaient idolâtres. Paul exposa l'absurdité de l'idolâtrie en montrant l'autel avec l'inscription au Dieu inconnu. Paul poursuivit en établissant que nous appelons aujourd'hui le métarécit de la Bible, en anglais the Bible Storyline. Autrement dit, il est en train de dire, quand il a vu la cité d'Athènes, il a ramené l'histoire du récit de la Bible à partir du début de la création. Il a ramené des vérités objectives, alors qu'il était noyé dans l'idolâtrie. Et le fait que le Créateur ne nous a pas abandonnés, mais qu'il est au contrôle de toute l'histoire. À l'intérieur de ce cadre, Paul déclara que le besoin de l'homme est de se repentir et de se préparer pour le grand jugement. Exactement la même chose qu'on en fait aujourd'hui. Même si ça va être mal reçu, on va faire rire de nous, c'est ça qu'il faut faire. Alors, prêcher dans une société postmoderne requiert que nous prêchions les faits du métarécit de la Bible, en anglais, « the Bible storyline », avec clarté et avec autorité. Le réveil de la vraie foi est une formidable bénédiction, en autant que nous mettons l'emphase sur la souveraineté de Dieu dans la création, dans la formation du canon des Saintes Écritures et dans la providence de tous les jours. Dieu est au contrôle de façon absolue. Alors, eux, ils nient tout cela. Alors, on a dans Matthieu 10, versets 29 à 31, l'idée de la souveraineté de Dieu dans l'ensemble de ce qui se passe sur la terre. Il dit, c'est Jésus lui-même qui parle, il dit, « Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Alors, l'absurdité du déconstructionnisme est vue dans le fait que Christ a construit son Église universelle dans 220 nations, parlant plus de 1000 langues différentes. S'il était vrai que le langage ne peut véhiculer de la signification, comment est-il possible que toutes ces tribus et ces peuples de différentes langues aient pu adopter le même système de croyances, croire en la même Bible et devenir de véritables adorateurs du Dieu trinitaire? La vérité est que le déconstructionnisme n'est qu'une autre façon qu'ont inventé les hommes pour continuer à se cacher. Lorsqu'Adam et Ève chutèrent, ils sentirent leur culpabilité qui se transforma en inimitié contre Dieu. On va lire Romains 8, versets 6 à 8. « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Et on va terminer avec le premier paragraphe de la page 11. « Si Adam et Ève eurent connu le déconstructionnisme, ils auraient répondu au Seigneur, « Seigneur, il n'est pas bon que tu veuilles nous parler parce que nous ne comprenons plus le langage. Éloigne-toi de nous. » Alors, on va terminer là-dessus et on regardera les trois autres aspects et la conclusion dans notre prochaine leçon.